Catherine Ivérès. Stance 2.
C'est un des premiers solos de cette envergure, enfin disons d'une demi-heure. J'ai toujours été, quand je dansais dans mes propres pièces, c'était toujours des petits fragments de quelques minutes. Mais là, j'avais décidé de partager le plateau avec l'équipe des danseurs, mais d'une autre façon, pas en étant vraiment avec eux. Donc en fait, Stance, c'est... était composé de deux parties, une partie de 50 minutes, stance 1, avec 9 danseurs, et j'entrais à la fin avec ce solo. Et ça fait partie d'un vrai voyage à ce moment-là, de renouvellement d'une équipe, une chose de vie assez particulière, disons, un moment de ma vie qui a été particulier. Après, je l'ai transmis à une Italienne, Rita Quaglia, qui était une des premières danseuses de la compagnie dans les années 80. Et puis ensuite, je l'ai transmis 5 ans plus tard à une autre fille de la compagnie. Mais toujours, c'est un solo qui ne peut pas être dansé par des gens très jeunes. Il faut quand même une certaine expérience de vie pour avoir à la fois cet abandon et cette retenue, une certaine épaisseur, je dirais, qu'une jeune danseuse ne pourrait pas faire. Ça pourrait devenir très vite académique, en fait.
Ormai è vicina la terra di lavoro. Qualche branco di bufale, qualche mucchio di case tra piante di pomidoro, edere e povere palanche. Ogni tanto un fiumicello, a pelo del terreno, appare tra le branche degli olmi carichi di viti, nero come uno scolo. Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo autunnale vela il triste legno, gli stracci bagnati. Se fuori è il paradiso, qui dentro è il regno dei morti, passati da dolore a dolore senza averne sospetto.
C'est une façon de perpétuer cette écriture et qu'elle reste vivante finalement. Donc c'est très émouvant aussi de voir comment des personnalités, des individualités de ces femmes qui ont traversé le travail de chorégraphique avec moi, tout d'un coup, c'est leur donner une part d'intimité, parce qu'un solo, c'est aussi beaucoup une part d'intimité, c'est surtout une part d'intimité. C'est pas du tout la même chose que quand je chorégraphie avec 10 danseurs ou 15 danseurs. Ça n'a rien à voir. Ça porte énormément. C'est-à-dire qu'il y a des mots et la voix de Pasolini recharge émotionnellement le mouvement lui-même et l'intensité aussi, l'intention des gestes, de la gestuelle. Donc c'est un appui qui est très fort. En même temps, il ne faut pas non plus se laisser, ce que je disais à Francesca hier, ne pas se laisser... c'est un appui et en même temps, il ne faut pas se laisser submerger par la beauté de cette voix et l'humanité de cette voix. C'est-à-dire qu'il faut toujours être quand même dans une retenue, une certaine distance aussi. Donc c'est un cheminement très mental en fait. S'appuyer sur la forme, tout à fait, c'est un appui très très solide. En fait, quand je crée un mouvement, moi, dans le studio seul, je n'ai aucune image. Strictement aucune. J'ai une conscience spatiale. C'est-à-dire, si je suis à un endroit, je sais qu'il y a des stations, par exemple, il y a deux endroits du plateau. Il y a une géométrie. On est de dos, puis après, on est de face. Ça raconte quelque chose. Donc, d'où je suis arrivée, je sais que du coup, j'ai fait ça, tel déplacement, j'ai fait tel gestuel, telle dynamique. Donc, ça va m'amener à autre chose. Mais ça ne passe par aucun mot, aucune image. On est dans une abstraction, quand même. C'est ça qui est étrange.
Nelle panche, nei corridoi, eccoli con il mento sul petto, con le spalle contro lo schienale, con la bocca sopra un pezzetto di pane unto, masticando male, miseri e scuri come cani su un boccone rubato.
Vous savez, on disait toujours la danse est l'art du silence, mais au fond, quand vous voyez travailler dans un studio, il faut trouver des mots et il faut nommer chaque intention précisément. Et en même temps, trouver les mots qui correspondent à la personne pour qu'elle puisse trouver la clé de par où ça passe, etc. Donc après, c'est la mélancolie de la voix de Pasolini, c'est le fait qu'il y a un contre-jour, c'est un jeu avec sa propre ombre aussi. Est-ce que c'est peut-être une morte? C'est peut-être un fantôme qui est sur le plateau. Donc il y a un univers effectivement qui a une épaisseur, une densité qui est troublante. Mais rien pour moi, rien n'est naturel sur un plateau. Rien n'est naturel. C'est une convention. Les gens paient leur place, ils sont assis, regardent. On est dans un. Donc de l'artifice. Qu'est-ce que vous voulez de parler de naturel? Être naturel sur un plateau, ça n'existe pas. Il s'agit d'écriture. D'écriture. Donc. Oui, il y a un climat, effectivement, qui est donné par la lumière, le contre-jour, cette silhouette, ce piano un peu mélancolique, la voix de Pasolini qui effectivement, nous induit tout de suite, nous met dans un certain état, ça induit un climat. Et en même temps, c'est ce que je dis, il faut aussi avoir un peu de réserve sur la façon de l'interpréter. C'est une des choses les plus difficiles à transmettre. C'est que comment sortir de repousser les murs, c'est l'épaisseur de l'espace qui devient presque une dimension un peu métaphysique. Mais ce temps, c'est aussi le séjour, mais dans le sens de la chambre, de l'intimité. Mais cette intimité, dans la densité, la conscientisation de l'espace, repousse les murs. Concret d'un théâtre, du lieu lui-même. Et ça, c'est pas simple à transmettre. Oui. Tenir debout, résister. Résister. Il faut résister à beaucoup de choses. C'est-à-dire être à la fois passeur, se laisser traverser par les autres, mais aussi des endroits où Il y a une reconnaissance d'une mémoire, une reconnaissance de des choses qui fait que des êtres de pas se laisser avaler par tous les codes qui nous ne pas se laisser abattre, oui. Mais ne pas se laisser manipuler. Mais en même temps, tenir debout, résister, mais aussi c'est s'abandonner. C'est-à-dire, c'est la difficulté. C'est comment, par exemple, je dis souvent à Francesca, elle dit, c'est des mots qui sont importants, de laisse faire ton propre poids. Jouer avec son propre poids. C'est-à-dire, chaque pas compte. Chaque pas compte. On a chacun son propre poids. Cette densité-là, il faut vraiment la peser, la vivre. Et en même temps, c'est ce jeu entre s'abandonner à son propre poids et la retenue de ne pas basculer dans un expressionnisme, dans une surenchère de représentation ou d'interprétation. C'est être là, juste être là. Donc c'est vrai que c'est assez fin comme comment s'abandonner et en même temps se retenir. C'est tout le temps bon, c'est la vie. Sensei, c'est maître en japonais. C'est le deuxième solo que j'ai créé il y a 4 ans parce que la personne qui m'a permis de faire une espèce de table rase de tout ce que j'avais pu apprendre, c'est-à-dire c'est un maître à penser d'une certaine manière, est japonais, il s'appelle Kazuo Ono et il est décédé il y a 4 ans à l'âge de 103 ans. Ça conserve la danse. Hein. Donc c'est un maître de buto. Hein. Le buto, c'est cette danse, ce mouvement très particulier qui est né dans les années 60 au Japon, en réaction au nucléaire, aux Américains, etc. Qui était très influencé aussi par les surréalistes, par l'expressionnisme. Enfin, bon, c'est très japonais aussi. Sans être devenue une danseuse de buto, rencontrer cet homme, je suis arrivée danseuse, si vous voulez, au Japon, et je suis ressortie, quand je suis rentrée en France, j'étais chorégraphe. Donc, il m'a permis de faire cette table rase, de déconstruire tout ce que j'avais construit. C'est pour ça que je dis maître, mais dans le sens à penser, le maître philosophique, si vous voulez. C'est la personne qui vous pose des questions, qui vous interpelle, qui vous interroge, qui vous permet, oui, d'avancer pour de vrai, quoi.
Mm-hmm.
Beaucoup de chorégraphes, il y a beaucoup d'artistes. Après, la question de l'auteur est une vraie question, est une autre question, est la vraie question. C'est-à-dire de créer des ruptures de langage, de concevoir un espace-temps, une façon de se mouvoir. Si vous voulez, j'ai presque plus appris Bon, on parlait de Pasolini, mais ça peut être Fassbinder, ou je pense par exemple à Tadeusz Kantor. C'est la première chose, par exemple, quand on est arrivé au Japon, que nous a dit Ono, Tadeusz Kantor, number one. Parce que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui n'est plus dans le théâtre traditionnel, qui a véritablement inventé son propre langage, son propre univers. Donc, un auteur, c'est quelqu'un qui amène une dimension temporelle, spatiale, physique, relationnelle, sociale, politique, etc., qui fait que ça devient une esthétique particulière, un langage tout à fait particulier. Après, il y a beaucoup, effectivement, d'artistes qui sont fabriqués de toute une histoire et de mimétisme, avec chacun sa propre personnalité, bien sûr, mais qui n'arrivent pas à tout d'un coup concevoir quelque chose qui prend autant de facteurs ensemble, hein, dans leur... Par exemple, on peut même parler du temps chez un écrivain, c'est-à-dire que enlever le mécanisme de notre organicité quotidienne, notre bipolarité, le maîtrisme de nos vies, comment socialement on est conditionné par une espèce de métrique dans la vie. Bon, casser ça, par exemple, casser ces codes-là, c'en est un de codes, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est déjà une conscience liée au temps qu'il faut couper, qu'il faut rompre. Donc même un écrivain, dans un grand écrivain, il y a une dimension temporelle qui est particulière. La fameuse petite musique de Tchekhov, etc. Mais c'est ça. Memory sway to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart.
Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt. But I really go on hearing your lies. And I go on living without you. Now the stage is bare. And I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again?
Oh, yeah.
Tell me again, are you not saying tonight? Is your heart?